Voltaire, que toutes les races d'hommes ont toujours vécu en société. Tous les hommes qu'on a découverts dans les pays les plus incultes et les plus affreux vivent en société, comme les castors, les fourmis, les abeilles et plusieurs autres espèces d'animaux. On n'a jamais vu de pays où ils vécussent séparés, où le mâle ne rejoignit à la femelle que par hasard et l'abandonna le moment d'après par dégoût, où la mère méconnut ses enfants après les avoir élevés, où l'on vécut sans famille, sans aucune société. Quelques mauvais plaisants ont poussé leur esprit jusqu'au point de hasarder le paradoxe étonnant que l'homme est originairement fait pour vivre seul, comme le loup cervier, et que c'est la société qui a dépravé la nature. Autant vaudrait-il dire que dans la mer, les harengs sont originairement faits pour nager isolés et que c'est par un excès de corruption qu'ils passent en troupe de la mer glaciale sur les côtes. Et qu'anciennement, les grues volaient en l'air chacune à part et que, par une violation du droit naturel, elles ont pris parti de voyager de compagnie. Chaque animal a son instinct, et l'instinct de l'homme, fortifié par la raison, le pousse à la société comme au manger et au boire. Loin que le besoin de la société ait dégradé l'homme, c'est l'éloignement de la société qui le dégrade. Quiconque vivrait absolument seul perdrait bientôt la faculté de penser et de s'exprimer. Il serait à charge à lui-même. Il ne parviendrait qu'à se métamorphoser en bête. L'excès d'un orgueil impuissant qui s'élève contre l'orgueil des autres peut porter une âme mélancolique à fuir les hommes. C'est alors qu'elle s'est dépravée et elle se punit elle-même. Son orgueil fait son supplice. Elle se ronge dans la solitude du dépit secret d'être méprisée et oubliée. Elle s'est mise dans le plus horrible esclavage pour être libre. On a franchi les bornes de la folie ordinaire jusqu'à dire qu'il n'est pas naturel qu'un homme s'attache à une femme pendant les 9 mois de sa grossesse. L'appétit satisfait, dit l'auteur de ces paradoxes, l'homme n'a pas besoin de la femme, telle femme, ni la femme de tel homme. Celui-ci n'a pas le moindre souci, ni peut-être la moindre idée des suites de son action. L'un s'en va d'un côté, et l'autre d'un autre. Il n'y a pas d'apparence qu'au bout de 9 mois, ils aient la mémoire de leur s'être connus. Alors pourquoi la secourrait-il après l'accouchement? Et pourquoi lui aiderait-il à élever un enfant qui ne sait même pas seulement lui appartenir? Tout cela est exécrable, mais heureusement, rien n'est plus faux. Si cette indifférence barbare était le véritable instinct de la nature, l'espèce humaine en aurait presque toujours usé ainsi. Mais l'instinct est immuable. Et ces inconstances sont très rares. Le père aurait toujours abandonné sa mère. La mère aurait abandonné son enfant. Et il y aurait bien moins d'hommes sur la terre. Il n'y a d'animaux carnassiers. Car les bêtes farouches, mieux pourvues, mieux armées, ont un instinct plus prompt, des moyens plus sûrs et une maintenant plus assurée que l'espèce humaine. Notre nature est bien différente de l'affreux roman que cette énergumène dit d'elle, excepté quelques âmes barbares entièrement abrutis, ou peut-être un philosophe plus abruti encore, les hommes les plus durs aiment par instinct dominant l'enfant qui n'est pas encore né, le ventre qui le porte et la mère qui redouble d'amour pour celui dont elle a reçu dans son sein le germe d'un être semblable à elle. L'instinct des charbonniers de la forêt noire leur parle aussi haut, les anime aussi fortement en faveur de leurs enfants que l'instinct des pigeons et des rossignols les force à nourrir leurs petits. On a donc bien perdu son temps à écrire ces fadaises abominables. Le grand défaut de tous ces livres à paradoxes n'est-il pas de supposer toujours la nature autrement qu'elle n'est? Si les satires de l'homme et de la femme écrites par Boileau n'étaient pas des plaisanteries, elles pécheraient par cette faute essentielle de supposer que les hommes fous et toutes les femmes impertinentes. Le même auteur, ennemi de la société, semblable au renard sans queue, qui voulait que tous ses confrères se compassent la queue, s'exprime ainsi d'un style magistral. Le premier qui, en enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », trouva des gens assez simples pour le croire. Il fut le vrai fondateur de la société civile. Et que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont tous à tous et que la terre est à personne. Ainsi, selon ce beau philosophe, un voleur, un destructeur aurait été le bienfaiteur du genre humain, et il aurait fallu punir un honnête homme qui aurait dit à ses enfants: Imitons notre voisin, il a enclos son champ. Les bêtes ne viennent plus ravager son terrain, deviendra plus fertile. Travaillons le nôtre comme il a travaillé le sien. Il nous aidera et nous l'aiderons. Chaque famille cultivant son clos, nous serons mieux nourris, nous serons plus sains, plus paisibles, mais moins malheureux. Nous tâcherons d'abolir une justice distributive qui consolera notre pauvre espèce, et nous vaudrons mieux que les renards et les fouines à qui cet extravagant veut nous faire ressembler. Ce discours ne serait-il pas plus sensé, plus honnête que celui du sauvage qui voudrait détruire le verger du bonhomme? Mais quelle est donc l'espèce de philosophe qui fait dire des choses que le sens commun réprouve? Du fond de la Chine jusqu'au Canada, n'est-ce pas celui d'un gueux qui voudrait que tous les riches fussent volés par les pauvres afin de mieux établir une fraternelle union entre les hommes? Il est vrai que si toutes les haies, toutes les forêts, toutes les plaines était couvert de fruits nourrissants et délicieux, il serait impossible et injuste et ridicule de les garder. S'il y a quelques îles où la nature prodigue des aliments et tout le nécessaire sans peine, allons-y vivre, loin du fatras de nos lois. Mais dès que nous les aurons peuplées, il faudra revenir aux tiens et aux miens, et à ces lois qui très souvent sont fort mauvaises, mais dont on ne peut se passer.